RCV. Vous écoutez 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 RCV.
Bonsoir, vous êtes bien sur Jean Rage, votre émission féministe lilloise. Aujourd'hui, nous sommes le 15 avril et pour cette cinquième émission, nous allons aborder un sujet qui divise les féministes, la question de la prostitution. Donc au programme du jour, on va vous faire écouter une petite compilation qu'on vous a concoctée de plusieurs interventions de militants ou de personnes qui font partie du qui représentent le gouvernement. Sur lequel on duquel on discutera juste après et qui nous permettra aussi d'aborder les lieux communs et les clichés qui sont généralement associés avec le milieu de la prostitution. Ensuite, nous aborderons l'activité du milieu associatif en ce qui concerne la prostitution et notamment le mouvement abolitionniste. Donc on parlera des associations qui existent et des actions qu'elles mettent en place. Et enfin, nous parlerons du STRAS, qui est le syndicat du travail sexuel. Nous présenterons donc ses actions. On lira un manifeste, ce sera Sadi, notre invité d'aujourd'hui, qui le fera. Et nous terminerons avec une lecture de Libérer le féminisme.
Oui, donc en fait, aujourd'hui, Zap, comme tu viens de le dire, on a une invitée spéciale, Sadi. Bonsoir, Sadi.
Bonsoir.
Et donc, Sadi, en fait, tu es là, non pas pour témoigner vraiment de ton travail, de ton expérience. Le but, c'est pas de rajouter un témoignage à un autre et de constituer une sorte de tribune de témoins de son expérience en tant que travailleuse sexuelle, mais c'est vraiment dans un objectif de coalition des luttes et de mise en dialogue de nos luttes, donc voilà, de nos militantismes, et essayer de les concevoir ensemble, et voilà, puisque c'est la façon dont on aimerait en tout cas conduire cette émission. Donc tout de suite, comme tu l'as dit juste avant, Zab, on va lancer une compilation de plusieurs lieux communs ou déclarations qui concernent la prostitution.
Plus vieux métier du monde ou la pire exploitation du corps humain?
Je vais faire quoi? Je vais vivre avec 500 euros que l'État va me donner? C'est ça, vous voulez encore plus de chômeurs? Plus de gens qui soient dépendants du gouvernement? Laissez-nous travailler, on ne l'a pas volé l'argent. On travaille, on est autonome. On n'est pas des victimes et on ne le sera jamais. Si on fait ce boulot-là, c'est justement pour pas être victime. Ni de patron, ni de proxo.
La vraie question, quelle est-elle? C'est de se dire qu'en fait, les personnes qui pratiquent la prostitution le font souvent sous la contrainte, ou parce qu'elles sont confrontées à une misère sociale incroyable. Moi, je voudrais qu'on me dise, par rapport à cette remarque, combien de personnes issues de milieux favorisés, qui ont eu une formation professionnelle, qui ont un métier, choisissent après de devenir prostituées.
On ne pourra jamais supprimer la prostitution. Et sans en faire l'apologie, il est aussi clair que ça évite des drames autres. Il y a des gens, s'il n'y avait pas de prostituées, peut-être, qui commettraient des crimes parce qu'ils ne pourraient pas évacuer leur sexualité, leur pulsion et autres.
Je trouve quand même scandaleux qu'on assimile la prostitution volontaire, la prostitution forcée, comme vient d'être fait. Au 19e siècle, quand il y avait des esclaves qui travaillaient les cotons aux États-Unis, on ne disait pas que c'était des agriculteurs, on disait que c'était des esclaves. Ouais. Alors pour moi, une personne qui est forcée n'est pas une prostituée, c'est une esclave. Et n'importe quel métier elle fasse ou il fasse, c'est la même chose. Alors dire prostitution, ce n'est pas très pertinent.
Le moment de détente est terminé. Marie va maintenant rejoindre ses clients. Nous allons la suivre en Belgique. Comme elle, dans ce pays, des centaines de Françaises monnaient leur charme. Comment des mères de famille ou des étudiantes se retrouvent-elles dans ces maisons closes? Qu'est-ce qui les a menées vers la prostitution en Belgique? Qui sont ces femmes qui fuient la précarité?
La prostitution est effectivement le plus vieux métier du monde, et que le risque, c'est de voir se développer dans la clandestinité, plus encore dans la clandestinité qu'aujourd'hui, cette activité qui est tout à fait répréhensible. Et donc de renvoyer des femmes à leur sort, les lier davantage au réseau de proxénétisme, et puis les voir s'éloigner des villes pour se retrouver dans des endroits où elles seront plus éloignées des centres de soins, des centres de prévention, etc. Et il y a un risque aussi sanitaire.
Je crois qu'il faut que nous ayons les moyens vraiment de poursuivre les réseaux de proxénétisme, de les sanctionner, de les démanteler, que nous devons donner les moyens aussi aux femmes d'accéder à d'autres métiers, que nous devons créer les conditions pour qu'elles ne tombent pas dans ces réseaux-là. Donc il y a politique pénale et politique publique à faire sur la prostitution. Ça n'est pas un sujet mineur.
Légaliser, c'est encadré, c'est protégé, c'est clair, c'est net. Quelqu'un qui arrive avec de mauvaises intentions en voulant placer des filles de force, si c'était légalisé, ça ne pourrait pas se faire. Personne ne veut prendre le problème dans le bon sens. Nous, personnellement, on veut des droits, mais certainement pas qu'on nous relègue au fin fond d'un bois, à trembler de peur chaque fois qu'un flic va passer ou chaque fois qu'un client va passer, puisqu'on ne sera plus protégé du tout.
The word whore is used to stigmatize any woman that doesn't fit the criteria of a good girl. She could be overweight, she could have dropped out of the church, she could have gotten a divorce in the 50s, she could talk back or could talk bad, and dress wrong, hang out with the wrong people, you know, things like that. So really the word whore is still used to keep other women in line. All women, but the punishment of the prostitute is the example set by the system that if you don't, you know, act right, bow down to men, I suppose, that you'll get what's coming to you.
Plus vieux métier du monde.
Voilà, donc c'était une compilation de plusieurs interventions, notamment d'acteurs politiques comme Christine Taubira ou encore Marcela Yacoub. Je vais quand même vous traduire le dernier extrait qui est en anglais pour les non-anglicistes. C'est un extrait de Margot St. James, donc une prostituée qui est politisée et qui a lutte, une américaine donc, et qui lutte contre la décriminalisation de la prostitution. Donc je vous traduis ce qu'elle dit. Le mot pute est utilisé pour stigmatiser n'importe quelle femme qui n'entre pas dans les critères de la fille gentille. Elle pourrait être grosse, avoir abandonné l'église, avoir divorcé dans les années 50. Elle peut répondre ou parler de manière vulgaire, fréquenter les mauvaises personnes. C'est un mot toujours utilisé pour garder les femmes sur le droit chemin, toutes les femmes, et la punition de la prostituée et de montrer l'exemple dans la société qui par ce mot vous préviendrait si vous ne vous comportez pas bien, que vous ne vous soumettez pas à l'homme, donc vous aurez ce que vous méritez, vous recevrez ce que dicte votre statut de prostituée. Donc voilà, c'était une compilation d'extraits qui était assez intéressante parce qu'elle reprend plusieurs lieux communs de la question de la prostitution. Je sais pas ce que vous en pensez, Sadie et Suzanne.
Vas-y. Ouais, je voudrais rebondir juste sur la citation que tu viens de traduire pour profiter de rebondir précisément sur ça là, parce que bon, là on n'entre pas directement dans le vif du sujet, dans le sens il n'est pas véritablement question de travail, mais on est quand même dans le sujet parce qu'il s'agit du pute comme stigmate qui d'abord était un stigmate et que ensuite il est peut-être question de se réapproprier ce stigmate là, mais avant tout pute c'est un stigmate qui en gros désigne c'est extrêmement large, mais c'est une façon de montrer que il y a des valeurs morales qui sont attachées au corps des femmes et que c'est toujours une façon de contrôler davantage ces corps à l'encontre des choix que peuvent faire ces femmes. Et je trouvais intéressant que la personne contextualise, montre que le mot de salope, de pute, en fait, finalement, l'opprobre qui est jeté sur ces femmes du fait de leur usage spécifique de leur corps, soit contextualisé dans des contextes historiques différents pour bien montrer à la fois la persistance du stigmate et ses évolutions contextuelles. C'est-à-dire que finalement... c'est précis, enfin ça relativise complètement l'argumentaire moral qui peut dominer la question de la prostitution. Bref, voilà.
Oui, non, c'est bien, tu fais très bien de rebondir exactement sur le mot. C'était de toute façon l'objectif de cette intervention, c'était justement de prendre l'objet pute pour savoir finalement à quoi ça référait aujourd'hui. Est-ce que, enfin, pas à quoi ça référait aujourd'hui, mais finalement. Il y a une dérivation, un glissement sémantique de pute, c'est une prostituée, à pute, c'est n'importe quelle femme qui pourrait ne pas se comporter de la manière dont lui dicte la société, quoi. En gros. Bon, bah, c'est. Donc voilà. Sinon, pour rebondir sur d'autres extraits, est-ce que tu voudrais rebondir sur un extrait en particulier? Qu'est-ce que tu penses, par exemple, du mot pute, toi?
J'en ai parlé dans le manifeste. Enfin, c'est clair que maintenant, enfin, n'importe quelle fille peut se faire traiter de pute alors que elle a rien à voir dans le milieu du travail du sexe. Et voilà. Enfin, c'est ce que disait Suzanne.
Bah, ça encourage. Je trouve que ça. Je sais pas ce genre de. Moi, c'est le genre. C'est ce genre de propos, ce genre d'argument qui me fait notamment éprouver la légitimité de la solidarité des luttes féministes et pro-putes qui sont finalement toutes connectées par le fait que qu'on a un ennemi commun, c'est disons les institutions qui contrôlent nos corps au nom de d'une certaine morale et de certaines normes qui vont à l'encontre de nos choix. Et là j'y vois véritablement une véritable motivation de coalition de nos luttes.
Donc sinon, pour revenir sur l'extrait, enfin sur la compilation d'extraits plus particulièrement, et pour commencer à entrer dans le vif du sujet sans parler de l'action militante à proprement parler comme on vient de le faire. C'est un extrait qui aborde plusieurs facettes, on va dire, de la question de la prostitution, je trouve. Je trouve qu'elle met en opposition plusieurs thématiques, enfin plusieurs choses qui sont pas pertinentes de poser. Mais par exemple, il y a toujours quelque chose qui revient dans la prostitution, c'est à savoir, est-ce que les prostituées ont le choix de se prostituer? Quelle est la part de libre arbitre dans ce travail? Est-ce qu'elles l'ont choisi? C'est justement quelque chose que je trouve qui est très repris par tout le milieu abolitionniste et qui fait partie de l'imaginaire collectif, c'est à savoir que le milieu de la prostitution est majoritairement composé de prostituées, de filles, pauvres filles limite, j'irais jusqu'à dire pour reprendre leurs mots, qui viennent d'Europe de l'Est ou d'Afrique, etc. Voilà. Et du coup, qui associe la prostitution à la traite d'humains, à l'esclavage, etc. Et à un travail forcé, non choisi, à une activité qui est contrôlée par une entité supérieure qui serait le proxénète, en l'occurrence.
Et qui rentre en plus en total, qui rentre dans une ligne aussi nationaliste et anti-immigration de la politique d'État, parce que aussi stigmatiser les filles de l'Est ou les filles migrantes, les prostituées migrantes, c'est également reléguer, stigmatiser une partie précaire de la prostitution qui serait l'apanage donc de ces filles, de ces prostituées travailleuses du sexe migrantes, et donc les parquer dans un espace criminalisé, quoi. Mm-mm. L'espace du discours.
Du coup, ça crée finalement ce stéréotype de la prostituée immigrée sans papier qui a une activité illégale et forcément qui justifie toute l'action associative qui vise à abolir la prostitution, puisque forcément une prostituée sans papier est dans une situation de précarité extrême et de domination d'une personne sur une autre, que ce soit une domination genrée ou non. Finalement, est-ce que toute prostitution est une forme de domination? Ça, c'est une autre question qu'on va se poser dans l'émission. Toi, Sadie, qui est travailleuse du sexe, t'as une autre réalité, tu vis une autre réalité tous les jours. Est-ce que tu considères que ton travail, par exemple, c'est une forme de domination? Est-ce que tu le considères comme... est-ce que finalement, ces problèmes du libre arbitre et du choix de travailler, comment tu te le poses, cette question?
Moi, c'est vraiment un choix comme tu le dis. Donc, mais pour revenir sur les filles qui viennent
d'Europe de l'Est, voilà.
Évidemment, elles sont souvent sans papier et c'est souvent le seul moyen qu'elles ont de pouvoir gagner de l'argent et réclamer des droits. Ça réglerait aussi le problème des filles qui font ça et dont c'est pas le choix, quoi.
Oui, tous les réseaux de proxénétisme, voilà. Et toute l'activité clandestine qu'il y a autour de la prostitution.
Ouais.
Mais qui donc est pas ta réalité, finalement, non. Et c'est sur ça que je voulais rebondir. Pas ton vécu au jour le jour, mais le fait qu'il y ait aussi une partie si on pourrait faire un groupe de prostituées et les mettre tous dans un sexe, qu'on va pas faire aujourd'hui justement, mais il y a une partie des prostituées, des travailleuses du sexe qui sont pas qui se retrouvent pas dans cette réalité-là, qui font
ça totalement de façon indépendante, qui choisissent eux-mêmes leurs clients, qui choisissent quand est-ce qu'elles veulent travailler ou pas, enfin, et c'est clair que là il y a une notion aussi de confort justement par ce choix qui a été fait à la base, quoi.
Confort économique
Par rapport à quoi exactement?
Mais tu parles de confort, tu te réfères à quoi exactement?
On a des
conditions de travail par rapport optimales. Ok, d'accord.
Voilà.
Et voilà, c'était pour parler donc du libre arbitre et du choix. Je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant, qui est un lieu commun de la prostitution. Suzanne, toi, t'en pensais quoi de cette question-là?
La question du libre arbitre.
Du choix de choisir ou pas.
Moi, je pense qu'elle est un peu biaisée, cette question de fait, parce que c'est quand on la met, quand si on, c'est parce que l'on considère, on utilise cet argument pour complètement saper la légitimité même de ce travail parce qu'on ne le considère a priori pas comme un travail. Et du coup, on pose la question de, de libre arbitre. Mais si on demande à une caissière ou à ou même à un prof, hein, s'il a véritablement choisi, toutes ces motivations ont été tournées vers ce métier. Je sais pas si tout le monde aurait une réponse affirmative et complètement positive. Donc la question du choix, elle est de fait biaisée par l'expérience et par nos vies, quoi, qui ne sont jamais entièrement libres et entièrement volontaires. Donc la question de la volonté, alors évidemment après on peut considérer que les travails liés au corps sont particuliers, ou qu'il y aurait une spécificité de ces métiers-là, mais en tout cas la question du libre arbitre me paraît souvent instrumentalisée en fait pour cautionner un discours qui finalement n'est là que pour saper des travailleuses, enfin qui voilà.
Enfin, on travaille tous et toutes pour un certain confort économique et
voilà.
Et il y a des gens qui choisissent pas non plus de travailler à l'usine, mais qui le font, qui peuvent le faire et voilà quoi.
Ouais, je pense qu'on peut parler aussi de conditions de travail optimales et pessimales. Bon, bien sûr, il n'y a pas de comparaison entre les conditions de travail pessimales d'une personne X qui est employée et qui a un statut reconnu par l'État par rapport à des femmes qui travaillent dans la prostitution et qui sont exploitées par un réseau de prostitution. Mais finalement, est-ce qu'on choisit toujours nos conditions de travail ? Il est évident que c'est pas le cas. Donc c'est ce que tu disais, Suzanne, que c'est une question finalement complètement biaisée dès le départ, quoi.
Très relative, en fait.
Et d'ailleurs, pour rebondir sur la question de la spécificité du travail, parce que c'est un travail donc qui engage le corps finalement. Je pense qu'il y a d'autres types de travail qui engage, bon, et de manière pas comparable exactement le corps, mais
peut-être pas les mêmes parties du corps.
Voilà, c'est ça, mais justement, c'est le problème de quelles parties du corps sont engagées dans ce travail, et ça renvoie finalement à une certaine forme de sacralisation du corps, du sexe finalement, ouais, qui devrait être utilisé seulement à des fins
reproductives.
Oui, reproductives, ou à des relations consenties entre personnes qui s'aiment ou qui veulent avoir une relation tout à fait libre. Et c'est ça le problème, je pense aussi, qu'il y a avec la prostitution, qui en fait une question beaucoup plus délicate que n'importe quel autre travail, c'est cette sacralisation, cette spécificité qu'on va donner à ces parties du corps là qui sont les parties génitales, quoi, finalement, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Ah oui, je suis entièrement d'accord. Je pense je pense complètement qu'il y a une norme. Déjà, il y a la norme reproductive, hein, qui est encore présente. Je veux dire, on le voit avec les débats en ce moment, sans vouloir faire un parallèle pas forcément très pertinent, mais les normes reproductives, elles sont réelles, hein, elles sont persistantes, et les normes de reproduction, et ensuite les normes de sexualité, c'est-à-dire que finalement pouvoir ne pas mettre un temple sacré dans sa chatte, ça pose problème pour pas mal de personnes, c'est-à-dire qu'on, alors que bon, la réalité,
même en même temps, en 2013, il y a plus beaucoup de, enfin, dans la société d'aujourd'hui, il y a plus beaucoup de couples, à part chez les cathos, qui baissent que pour faire des enfants, quoi.
Ah oui, voilà, c'est clair. C'est ce que j'allais dire.
Ouais, mais
c'est clair.
Pour reprendre, moi, je pensais à ça, là, justement, à la spécificité des corps, mais pour reprendre un argument de beaucoup d'associations féministes, c'est finalement qui voudrait qu'il y ait je sais pas combien de bits d'inconnus qui entrent dans sa chatte par jour, quoi. Mais finalement, qui voudrait servir 60 clients et courir dans un resto tous les jours ? Qui voudrait serrer la main de gens que tu connais pas parce que tu t'es en train de signer des accords commerciaux.
Mais en même temps, justement, par rapport à ça, dans le film Les Travailleuses du Sexe par Jean-Michel Carré, il y avait Sonia Verstappen qui est une ancienne prostituée bruxelloise, qui disait moi je supporte pas la vue du sang, je pourrais pas être infirmière. C'est pas pour autant que je vais dire on va interdire les infirmières. Il y a juste une des personnes différentes, quoi. C'est il y a des gens qui peuvent faire telle ou telle chose et il y en a d'autres qui peuvent pas, enfin.
C'est clair. Et je rebondis aussi sur ce que tu dis, précisément ce que tu fais référence au film Les travailleuses du sexe de Jean-Michel Carré. Et dedans, je ne sais plus qui témoigne de ça, mais une des travailleuses du sexe qui témoigne dans le film et qui dit que voilà, que tout simplement beaucoup de filles se font payer après avoir baisé en se faisant offrir des fleurs ou des restos, et que ce qui rend en fait finalement
c'est
complètement
Jacques Brel, en fait. Enfin, c'est Sonia Everstempen
qui reprend
Jacques Brel qui disait les vraies putes se font payer avant et les autres putes se font payer après.
Ouais, mais ça c'est complètement pertinent. Enfin, je pense qu'on pourra revenir là-dessus mais plus tard, mais il y a dans l'émission, mais il y a Paola Tabet notamment qui parlait de ça dans les années 80, qui a écrit là-dessus, enfin sur l'idée d'une espèce de continuum entre finalement les formes, ce qu'elle appelait les échanges économico-sexuels, c'est-à-dire les formes de relations que en fait finalement il y aurait une espèce de continuum entre les relations dites légitimes dans nos sociétés, à savoir les relations de mariage notamment, enfin le mariage, et qu'elle n'oppose pas précisément elle, mais que l'on oppose souvent aux formes illégitimes, à savoir la prostitution, qui sont en fait les outcasts de nos sociétés, mais qui en fait fonctionnent sur des principes assez
similaire
ou équivalent, ou du moins il y a une logique en fait qui ressemble, c'est-à-dire qu'il y a une des formes de dons et de voilà d'échanges et de dons d'appropriation mesurée des corps, mais qu'il y a une espèce de système économico-sexuel qui voilà est en tout une espèce de qui structure nos sociétés genrées.
Maintenant que tu en parles, donc de cette souffrance qui peut être produite et qui serait qui aurait pour origine donc cette hiérarchie genrée de la société, justement le problème que ça pose, c'est finalement comment quantifier la souffrance qu'une femme dans un système qui la domine a priori, comment quantifier cette souffrance, et finalement comment le milieu de la prostitution est devenu l'autel de la souffrance liée au caractère genré de la société finalement. Comment de manière générale la société est un produit de la genration, si on peut appeler ça comme ça. Donc comment de manière générale toutes les relations qu'on va avoir dans la société vont être genrées et vont être structurées par la hiérarchie genrée, mais pourquoi finalement c'est la prostitution qui est devenue ce lieu spécifique de la souffrance d'une femme dans cette société finalement. Je pense que c'est ça aussi qui...
Ouais, et ça d'ailleurs c'est intéressant, je pense qu'on peut peut-être en reparler après quand on va aborder le programme et les actions des associations abolitionnistes qui font précisément de la prostitution le symbole de l'oppression des femmes, et c'est vrai, c'est vraiment une façon un peu insidieuse de d'altériser des objets d'oppression, des femmes comme objets de l'oppression et de se poser en sujet de l'émancipation. Donc voilà, on revient tout de suite après avec le tigre. I'm so excited.
Voilà, donc juste avant de passer à une autre partie de l'émission qui concernera le mouvement abolitionniste en France, je voudrais moi revenir sur l'intervention de Marcela Yacoub dans la compilation d'extraits, qui est intéressante en ce qu'elle fait bien la différence entre finalement relations consensuelles rémunérées, donc finalement ce qui a trait au travail du sexe réellement, et finalement l'exploitation sexuelle qui n'a plus rien à voir avec un travail, mais qui a à voir avec l'esclavage, quoi. Et elle fait très bien la comparaison entre les anciens esclaves aux États-Unis qui travaillaient dans les champs, qui n'étaient pas considérés comme des agriculteurs, mais bien comme des esclaves. Et je pense que c'est une des différences ce qu'on doit jamais oublier quand on parle de prostitution, c'est qu'il y a plusieurs types de prostitution. Ou pour pas dire type, plusieurs de vécus de prostitution. Il y en a une qui est forcée et qui est une forme d'exploitation de la femme ou de l'homme, ça dépend. Même si généralement c'est des femmes. Et il y en a une qui est voulue et qui a trait au travail, qui a un véritable travail et auquel on ce qui nous pose problème et dont on va parler notamment dans cette émission, c'est cette problème de distinction qui devrait être faite, qui permettrait d'octroyer un statut au travail et de le reconnaître comme un travail en soi. On parle pas en gros, on parle pas de c'est pas parce qu'on est on s'inscrit pas dans une démarche abolitionniste qu'on ne reconnaît pas le vécu de certaines personnes qui vivent une véritable exploitation. Voilà, c'était juste pour revenir sur cet extrait. Est-ce que vous voulez revenir sur un dernier morceau d'extrait? Non, donc voilà, on va passer tout de suite à une deuxième partie d'émission, donc qui est celle du milieu associatif abolitionniste. Donc on va vous présenter certaines associations, les plus grandes associations en France qui œuvrent à l'abolition de la prostitution et faire d'autres distinctions théoriques, idéologiques sur ce qu'est le mouvement abolitionniste. Et on va vous lire un morceau de manifeste, un manifeste que plusieurs associations ont coécrit, notamment Oser le féminisme et le mouvement d'Uni, qui sont deux associations féministes. Féministes mais abolitionnistes. Et donc tout de suite, je vais vous présenter moi quelques associations qu'il y a en France qui sont les plus importantes, qui prennent médiatiquement beaucoup de place aussi. La première, c'est l'ENI. Qui est une association qui a une revue trimestrielle. Si vous vous y intéressez, vous pouvez aller lire quelques articles sur leur site, qui s'appelle donc Prostitution et Société. Il y a plusieurs articles qui sont relativement intéressants. Hein. Il y en a un notamment qui fait bien la différence entre partisans de la répression et qui serait incarné dans le mouvement prohibitionniste, donc qui veut réprimer les personnes qui se prostituent et ont recours au service d'une prostituée, et qui se base sur un certain ordre moral finalement, et le courant abolitionniste qui est pour l'abrogation d'une forme de répression à l'encontre des personnes prostituées, mais qui est pas là pour en gros, œuvrer à une certaine forme de répression sur les prostituées, sinon qui est là pour mettre en place qui cherche en tout cas à mettre en place des mesures contre le client et les exploiteurs, donc les réseaux de prostitution. Ce qui est une distinction qui me semblait importante à souligner, parce que généralement on fait facilement l'amalgame entre politique de répression et politique d'abolition. Là, en gros, l'action principale voulue par l'ENI, ce serait une responsabilisation au niveau pénal du client et des réseaux de prostitution, et donc l'abolition de la prostitution, pas en réprimant précarisant davantage les prostituées, sinon en inculpant les clients et les personnes qui ont donc recours à la prostitution. Il y a une autre association qui est très connue et très visibilisée, c'est Oser le féminisme, et qui notamment je trouve se retrouve beaucoup dans un certain magazine dit féministe ou féminin en tout cas, qui s'appelle Cosette. Suzanne, tu voulais peut-être nous en parler un petit peu
là maintenant.
Oui.
Oui. Alors en fait, il y a Cosette qui a fait un dossier sur la prostitution il y a un mois. Et bon, j'ai pas énormément de choses à dire là-dessus parce que il est pas extrêmement, il est pas passionnant non plus. Mais en fait, elles ont organisé un sondage dont les questions étaient assez amusantes, j'ai trouvé. Enfin, amusantes. Non, c'est pas vraiment la question, mais disons que elles étaient assez. Elle reflétait pas mal l'aspect un peu, disons, artificiel, j'ai trouvé, du dossier. Parce que, bon, en fait, la façon dont le sondage a été divisé, c'est... un phénomène social répandu avec les acteurs sociaux séparés selon le genre, les hommes qui sont interrogés sur le fait qu'ils déclarent s'ils ont déjà eu des rapports sexuels avec une prostituée, et ensuite les femmes, elles sont interrogées pour savoir si elles ont déjà eu des relations sexuelles tarifées. Donc bon, c'est très très genré la façon dont ça a été sondé, voilà. Et ensuite que je trouve assez assez insidieux, enfin que j'aime pas vraiment la façon dont ils ont posé la question, c'est la prostitution comme mal inévitable qu'il faut contenir. Donc ils ont mis les mots entre guillemets, mais je trouve ça un petit peu problématique la façon dont c'est présenté. Donc là, ils mettent en résultat en rouge 75% des sondés, soit les trois quarts de la population française considèrent que la prostitution est inévitable, mais qu'il faut s'efforcer de la contenir dans certaines limites. Donc, en fait, ce qui me dérange là-dedans, c'est que finalement, la prostitution devient une espèce de mal nécessaire, quoi. Et donc, du coup, il y a, en fait, finalement, c'est une espèce de position un peu relativiste et un peu désengagée, qui dépolitise complètement les sujets politiques travailleuses du sexe. C'est-à-dire que il y a plus véritablement de raisons politiques pour lutter. Mais que bon, voilà, il faut essayer de le contenir dans un certain nombre de circonscrire en fait pour éviter que se répande ce métier qui est un mal nécessaire. Donc le terme quand même moral est présent. Enfin, je trouve ça un petit peu un peu étrange.
Ce qui est aussi dommage quand même, c'est de faire un dossier sur la prostitution en 2013 en ne citant pas du tout le Stras, alors que c'est quand même
un acteur politique majeur. C'est clair.
C'est le syndicat du travail sexuel, enfin voilà quoi. Alors qu'il y avait quand même eu un entretien de fait avec Morgane Merteuil justement, et moi j'en ai parlé aussi, et c'est pas ça du tout qui est retranscrit.
Voilà. Ouais. Non, mais bon. C'est vrai ce que tu soulignes, hein. Finalement, c'est comme parler de la lutte ouvrière et de pas parler des syndicats comme la CGT ou Sud, etc.
Ouais, c'est clair. Voilà. Pour terminer rapidement sur le dossier Cosette, dire un dernier mot après clore le dossier c'est que ce qui m'a aussi un peu intriguée, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait quand même une espèce de ligne, même si c'est pas véritablement dit, elle pose le débat pour ou contre, abolitionniste ou réglementariste, sans véritablement parler du Stras, qui est assez étrange, comme tu l'as souligné, ça dit. Donc leur dernier dossier, c'est sur trafic d'êtres humains en Bosnie, dans un refuge pour celles qui dénoncent, et c'est suivi juste après d'un entretien avec Najat Vallaud-Belkacem, dont on connaît la position abolitionniste. Donc c'est clairement je pense orienté, c'est assez idéologique, je pense, la façon dont le dossier a été orchestré, c'est-à-dire que la ministre est interrogée suite au dossier, au reportage le plus glauque et le plus sinistre de tous les reportages qui ont été faits dans le dossier. Et donc voilà, bon, après elle réaffirme évidemment sa position et montre que c'est vraiment au centre de ses luttes de lutter contre, donc pour la pénalisation du client et mettre fin au délit de racolage passif. Hein, c'est dans son projet de loi.
Donc voilà, c'est pas une association en tant que soi, Cosette, mais je pense que c'est lu par pas mal de gens finalement, et ça participe à diffuser cette idée très glauque et très très.
Mais de toute façon, ouais, leur dossier est glauque. Quoi.
Voilà, c'est ça, exactement.
Tu vois les, enfin, rien que les photos.
Les photos sont des photos choc où on voit certaines parties de femmes sans voir leur visage, l'air de dire. Nous sommes que des morceaux de viande, en gros, c'est ça. À ça qu'elle servait ces photos là, je pense. Bref, pour revenir donc sur le milieu associatif, mais très rapidement, on parlait d'oser le féminisme juste avant. Pardon pour l'amalgame, hein, c'est pas Cosette, c'est pas une production d'oser le féminisme. Elles ont ok une collaboration directe. Hein, c'est juste que je trouvais que les positions qui sont prises dans Cosette reflètent pas mal certains stéréotypes sur lesquels s'appuient les associations abolitionnistes. Si vous passez sur le site d'Oser le Féminisme pour voir un peu quelles sont leurs positions donc vis-à-vis de la prostitution, elles ont pas non plus des idées complètement idiotes. Hein, elles considèrent donc que la prostitution est une violence en soi, qu'il est incompatible avec la dignité de la personne humaine parce qu'il est c'est une marchandisation du corps. Et que c'est une violence en soi car c'est d'abord un rapport sexuel désiré par un seul des protagonistes, le client prostituteur. Là, de nouveau, on revient dans le paradigme libre arbitre ou travail forcé, enfin exploitation plutôt. Donc c'est un stéréotype sur lequel elles repartent à chaque fois, qui est bon. C'est pas seulement un stéréotype, c'est aussi une réalité pour pas mal de prostituées, je pense, mais pas seulement. Et c'est le problème de ces associations, c'est qu'elles font pas la différence entre travail et exploitation sexuelle.
Oui, et juste petite parenthèse. Enfin, je voulais ajouter très très rapidement. Je me rappelle ce que Morgane Merteuil était venue présenter son livre Libérer le féminisme il y a quelques mois à Lille, et elle avait notamment parlé de la question du désir. Et si je me souviens bien, ou en tout cas si je m'en souviens peut-être mal, en tout cas voilà ce dont je me souviens par rapport à la question du désir, c'est que finalement, pareil, le désir, on le pose comme un espèce de prérequis et comme condition sine qua non à l'activité sexuelle, enfin à l'activité sexuelle tarifée, alors que on va pas aller enquêter et policer chaque fille qui a un rapport sexuel avec un partenaire pour savoir si est-ce que tu prends bien du plaisir, ça va, est-ce que c'est bon, ça va, t'es bon, t'es en train de voilà, on ne contrôle pas les corps et heureusement dans les lits. Et donc parce que les lits, on le réserve au cadre de l'intime, du privé et de ce qui est, et c'est précisément un des problèmes également pour des féministes, parce que bon, c'est précisément parce que il est pas du tout contrôlé qu'il y a aussi beaucoup de violences qui sont perpétrées aussi dans le cadre privé, enfin dans le cadre de tout ce qui concerne conjugale. Les violences conjugales, etc., dans le cadre conjugal. Mais bon, voilà, on va pas contrôler les désirs, on va pas sonder les désirs de chaque femme quand elle a une relation sexuelle. Alors pourquoi le demander comme prérequis pour des prostituées? Il faudrait qu'elles aient du désir pour qu'elles ne soient pas aliénées ou pour qu'elles ne soient pas complètement traumatisées.
Ouais, parce que généralement, en plus, dans le contrat de mariage, enfin, c'est un peu le devoir conjugal, quoi. Et il peut y avoir viol dans un mariage et il peut y avoir viol dans la prostitution, quoi. Enfin,
c'est clair.
Moi, je voudrais aussi revenir sur un thème là qui.
Mais c'est pas tout le temps un viol, quoi. C'est pas tout le temps une violence, quoi.
Ah non. tu veux dire la relation tarifée.
Ouais.
Moi, je voulais revenir notamment sur quelque chose qui est dans cet article d'Oser le féminisme qui avait été repris par Morgane Merteuil. C'est le problème de la dignité, donc le concept de dignité qui est associé avec la femme. Donc en gros, il y aurait une femme digne et une femme indigne. Déjà, ça pose une hiérarchie entre les femmes. Donc il y a une femme qui est en gros plus légitime et qui est plus plus digne, enfin en gros qui est plus légitime à avoir une place dans la société, et une qui est marginalisée, qui est relayée enfin c'est ce que tu disais juste avant, Suzanne, avec le problème de caste, qui est finalement complètement, qui devient outcast, qui est la prostituée.
Ouais, complètement altérisée. Ouais, illégitime en fait, voilà. Vraiment.
Et donc c'est le problème majeur pour moi des courants abolitionnistes. pas tous bien sûr, c'est qu'elle part du principe que la femme donc qui est en position de la femme qui se prostitue est en position de domination, enfin pas en position de domination, l'inverse, qui est dominée, pardon. Et donc et ça base, elle base ce donc cette domination, comment dire, j'arrive pas à faire ma phrase aujourd'hui. En gros, il y a, elles ont un concept, elles ont érigé le concept de dignité comme vérité absolue de la femme. Ça devrait être l'objectif de toute femme sur Terre, c'est atteindre ce statut de femme à proprement parler non dominée par d'aucune manière, quoi, ce qui est de toute façon impossible. Et je parle pas de la femme, mais je veux dire d'avoir aucune relation dominée dans la société aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement utopiste. Mais donc elle érige comme objectif ultime cette dignité de la femme, et donc elles font des parias, des femmes qui, elles font paria, elles donnent un statut de paria à ces femmes qui sont pas qui entrent pas dans leur case femme digne, quoi, en gros.
Il me semble que d'ailleurs tu avais un propos de ça. À propos du stigmate, vraiment, il y avait un extrait dans le tract du abolitionniste dont tu as lu un extrait tout à l'heure, qui mentionnait la prostitution comme symbole de l'oppression et la domination. Enfin,
c'était dans les extraits en fait. Mais si vous voulez, on peut essayer de retrouver le
passage.
J'ai pas encore lu le manifeste. Toi, tu parles du manifeste?
Ouais, du manifeste.
Alors, le manifeste, je l'ai devant les yeux. Il parle pas exactement de dignité. Mais ils parlent des actions qu'ils essaient de mettre en place et de ceux qui ne veulent pas mettre en place et ceux avec quoi on les associe et qui
en fait,
dont ils se défendent. Toi, tu parles de quoi? Je comprends pas.
Un extrait du passage que tu du passage de ce manifeste qui concernait qui prenait en fait la prostitution comme symbole. Qui érigeait la prostitution en symbole, mais le terme était mentionné comme symbole de l'oppression. Et en fait, lorsque tu avais lu ce passage, c'était juste avant l'émission.
On va vous lire, sinon on va vous lire tout de suite un morceau du manifeste. Donc comme ça, on retrouve ce fameux passage. C'est un manifeste qui a été écrit par plusieurs qui a été coécrit par plusieurs associations féministes abolitionnistes lors d'une convention qui s'est déroulée en 2000. C'est la convention abolition 2012 qui s'est déroulée en 2011. On va pas vous lire le manifeste en entier. Je vais vous lire deux parties. Il y a une première partie qui s'appelle « Ce que nous voulons ». Donc je vous lis tout de suite. Nos exigences sont simples. La première est l'abrogation du délit de racolage et de toutes les mesures de répression à l'encontre des personnes prostituées, mais aussi des mesures de protection, d'accompagnement social et d'alternatives pour toutes, y compris pour les étrangères. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place puisque depuis le 28 mars, si je me souviens bien, 2013, la loi pour le délit de racolage a été abrogée. Donc je continue de lire. La seconde vise l'interdiction d'acheter d'un acte sexuel et la pénalisation des clients prostituteurs. Cette interdiction associée à l'abrogation du délit de racolage constitue ce que les abolitionnistes appellent et réclament depuis plusieurs années. L'inversion de la charge pénale. Elle n'est ni l'effet d'une lubie ni d'un goût pour la répression, mais un choix politique qui fait déjà ses preuves dans plusieurs pays européens, notamment en Suède. Il est en effet urgent de contrer l'explosion de la traite des femmes, une entreprise criminelle dont les proportions atteignent aujourd'hui des dimensions sans précédent et qui n'a d'autre fin que servir le plaisir des prostituteurs. Enfin, nos associations demandent le renforcement de la lutte contre le proxénétisme, une politique pénale d'indemnisation effective des victimes de proxénétisme et la mise en place d'une politique ambitieuse d'éducation à la sexualité et de prévention de la prostitution. Bon, là, ils parlent pas d'abolir la prostitution à proprement parler dans les actions qu'ils veulent mettre en place. Je pense qu'il y a une manivelle, je sais pas trop comment appeler ça, politique ici, dans le sens où on peut pas ne pas être d'accord avec le fait de essayer de démanteler les réseaux de prostitution et d'exploitation de la femme. C'est pas possible d'être contre ça. Donc forcément, tu peux pas ne pas avoir comment dire, ne pas susciter un certain engouement et un certain accord avec ce que tu dis si tu poses des principes qui sont pas refusables, quoi. Bon, après, ils ont quand même une partie qui s'appelle « Ce que nous ne voulons pas et que beaucoup voudraient nous attribuer », qui est assez intéressante. Donc, je vous la lis tout de suite. « Définir une bonne et une mauvaise sexualité. Nous menons un combat pour la libération sexuelle, une sexualité libérée de l'ordre moral, mais aussi des rapports de domination et de l'emprise de marché. » Refuser qu'un rapport sexuel puisse être imposé par l'argent n'est pas une entreprise de restriction des sexualités, c'est au contraire une exigence d'égalité qui permet l'expression d'une sexualité libre. Nier l'existence du consentement de celles et ceux qui choisiraient de se prostituer. Là par contre ils entrent dans quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et qui divise beaucoup plus les féminismes. L'addition du consentement individuel ne suffit pas à faire un projet de société. Certains consentent à travailler pour moins que le SMIC, cela n'empêche pas la société de condamner légitimement tout employeur qui paierait un salarié moins que le SMIC. D'autres consentent à se séparer d'un orgasme, un organe, et à le vendre pour vivre ou survivre. Cela n'empêche pas la société d'interdire l'achat d'un organe. Bon là, il y a une comparaison nette entre la vente d'un service qui, comme pour le travail du sexe par exemple, c'est vraiment un service, et la vente d'un organe ou d'une partie du corps, c'est une comparaison qui est tout à fait exagérée et qui n'a pas lieu d'être. Un service, c'est pas quelque chose qui a à voir avec le corps et qui, avec l'intégrité du corps et qui nous est pas rendu par la suite. On va pas vous lire tout en entier. On retrouve pas exactement le morceau. Ces associations abolitionnistes ont pour projet d'abolir la prostitution, sans pénaliser les prostituées qu'elles considèrent comme des victimes de la société, finalement, et de cette société genrée. Comme disait Suzanne avant, je sais plus ce que tu disais exactement, mais en gros que la prostitution c'était devenu le lieu par excellence de cette domination masculine sur la femme. Il y a quand même un problème qui reste dans les messages de ces associations, c'est que finalement elles nient la réalité de certaines prostituées, elles nient un statut, et c'est pas en niant le statut ou l'existence de quelqu'un qu'on peut lui permettre de s'émanciper d'une certaine forme de domination, si c'est le cas, et si c'est pas le cas, de s'émanciper et de s'approprier son corps.
Mais plus elle dit deux choses, elle dit, enfin dans ce manifeste, il y a deux choses intéressantes, je trouve. D'une part, l'idée d'addition des choix individuels qui ne peuvent en gros se muter en choix collectifs et en intérêt collectif, mais du coup ça veut dire que elle présuppose elle-même un intérêt collectif, et au nom de quel intérêt collectif elle part, c'est-à-dire qu'elle s'approprie un intérêt elle ou il, parce que les associations se parlent au nom d'un intérêt collectif qu'elles mettent au principe de leur manifeste. Donc c'est déjà très problématique. Et puis ensuite, c'est aussi considéré que les choix individuels ne peuvent pas être des choix, n'ont pas été des choix politiques. Et dans ces cas-là, c'est dénier les luttes du strass notamment, et de la politisation de vos luttes, enfin, et de vos vies.
C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, chez OLF ou le NI, on est prêt à entendre les putes qui reconnaissent que, quand elles ont été putes, elles savaient plus ce qu'elles faisaient et tout ça, et que vraiment ça a été une violence et tout ça. Donc ces associations prennent vraiment en compte justement que les putes qui sont sous l'emprise de réseau, qui ont pas fait le choix de faire ça. Et au Stras, c'est pas qu'on va entendre que des putes qui ont choisi de faire ça, parce qu'on y a aussi, c'est aussi un endroit où justement on vient en aide à des femmes sans papier qui exercent ce travail parce qu'elles ont pas d'autre choix, parce qu'on leur donne pas la possibilité de faire autre chose. Par rapport à ces associations-là, le Stras prend en compte la parole de toutes les putes, quoi. Chose que ces associations ne font pas, quoi.
Ouais, ce que tu dis, c'est que finalement, il y a vraiment une instrumentalisation de la prostitution par quelques féministes qui déclarent que.
Non, mais bien sûr, elles vont utiliser dans leur discours la parole d'anciennes prostituées, mais qui reconnaissent que oui, effectivement, elles s'étaient voilé la face, mais jamais elles vont essayer de, je sais pas, d'aller frapper à la porte de Sonia Verstappen ou enfin voilà quoi.
Ce qui est quand même marrant, c'est qu'elles sont quand même là pour, donc, au nom des prostituées, émanciper toutes les prostituées. Mais en gros, elles parlent au nom d'une minorité et elles essaient d'aider cette minorité à échapper au joug de la domination masculine. Mais en voulant donc permettre à cette minorité de s'émanciper, elles créent une autre minorité qui sont finalement ces prostituées qui ont choisi d'être prostituées et qui voient pas dans la prostitution une forme de violence, quoi.
Mais de toute façon, moi, je me méfie beaucoup, sans vouloir, voilà, petite entrée très personnelle dedans, je me méfie beaucoup de ce féminisme émancipateur avec un grand drapeau qui finalement promeut des valeurs universelles et qui ensuite émancipe à partir de ses, enfin, voudrait émanciper, pose ses valeurs en normes et du coup considère qu'il y a des sujets pas assez sujets, pas assez féministes, et que elles sont les bonnes émancipées et que elles ont tout compris au patriarcat et à la libération. C'est toujours un problème.
C'est clair que moi, enfin, en tant que travailleuse du sexe, je me sens assez en bas de la société quand je les entends, parce que je me dis merde, est-ce que vraiment j'ai sérieusement un souci, parce que oui, il m'est arrivé de prendre du plaisir avec des clients, parce que oui, j'ai choisi de faire ça,
et tu n'es pas une malade mentale et tu ne t'es pas fait violer quand tu étais petite.
Non, ça va. mais c'est comme, enfin, je sais pas si Ni pute ni soumise fait partie aussi de l'écriture de
du manifeste, en l'occurrence.
Mais non. Rien que Ni pute ni soumise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'es pute ou si t'as choisi d'être soumise dans ta vie sexuelle, ça veut dire que tu peux pas être une femme digne, que tu t'as pas le droit d'exister, quoi. Enfin,
oui, c'est ça. La femme digne est pas assez digne pour exister.
Moi, je connais plein de putes qui se sentent encore plus femmes quand elles sont putes, quoi. Enfin, voilà.
Mais de toute façon, Ni pute ni soumise, comme par hasard, ce sont elles qui ont lutté aussi contre le voile, contre le port du voile à l'époque du débat la loi en 2003 contre le port du lave et dans une ambiance islamophobe au possible. Donc les parallèles, les analogies qu'on peut faire entre l'islamophobie et la putophobie chez Ni pute ni soumise est vraiment pertinente, je pense. Bon, en tout cas, je me rends compte qu'on a pas mal discuté là et qu'on va peut-être passer à une chanson, une petite pause de Cyndi Lauper.
C'est pour Girls. Morgane Merteuil qu'on la passe.
Dédicace pour Morgane Merteuil qui nous écoute peut-être ce soir. Et donc voilà, et on passe le tube Girls Just Wanna Have Fun. Et juste après, on passe à une présentation du Strass et à la lecture du manifeste de Sadie.
Oh,
on est de retour après cette petite chanson avec Suzanne et Sadi. Sadi, tu pourrais peut-être nous présenter un peu ce qu'est le stress, t'en as parlé tout à l'heure.
Ouais, donc le STRAS, c'est le syndicat du travail sexuel, donc de toute forme de travail sexuel, donc que ce soit le dans le cinéma porno, le téléphone rose, modèle de charme aussi, enfin vraiment tout ça. Et donc là, je vais parler
en ton nom.
En mon nom, personnellement, c'est comme on n'a pas de statut, comme on n'est pas reconnu par la société, comme on n'est rien au niveau de la société. C'est moi, en tout cas, le STRAS, ça m'a permis de me sentir, enfin, de savoir que j'étais pas toute seule et que j'étais quand même reconnue par des gens. Que j'avais quand même une certaine reconnaissance, que je pouvais, enfin, que ce que je faisais, c'était quand même du travail. Mmh. Et donc voilà. Après, je pense que il apporte aussi au niveau justement des filles qui veulent qui n'ont pas choisi de travailler d'être prostituée une aide parce que enfin par des juristes qui travaillent aussi pour le STRAS donc voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un syndicat qui est prêt à écouter toutes les putes pour qui ça a été un choix ou pas. Et voilà, et qui réclame des droits, les mêmes droits qu'aux autres travailleurs en général, voilà.
Et du coup, là, tu vas peut-être nous lire ton manifeste. Enfin, tu as écrit un manifeste en fait pro-pute, concrètement. Ouais. Donc peut-être que tu peux nous en faire une lecture, qu'on ait un peu.
Donc le titre c'est Dirty Talk par des putes propres. Alors putes propres parce que justement ce qui vient avant le terme pute c'est généralement sale pute. Et donc comme je le dis dans le manifeste, c'est pas parce que tu travailles avec ton cul que t'oublies l'hygiène. Enfin si on prend vraiment la chose
à la lettre,
les putes ne sont pas sales, voilà. Donc c'était un et donc dirty talk, donc sale discours, c'était sale discours en fait dans le sens où la façon dont on s'est considéré en France est pas très cool quand on voit par exemple ce qui se passe en Suisse où elles sont reconnues où il y a des choses qui sont vraiment mises en place pour elles. L'explication du titre. Je commence la lecture. Nous n'avons pas le sentiment de vendre notre corps. Mais vous, posez-vous la question de savoir si vous ne vendez pas votre âme lorsque votre cul s'assoit derrière ce bureau. Il nous arrive de travailler dans des bureaux. La seule différence avec vous, c'est que nous savons comment nous allons être prises. Nous offrons un service sexuel. Vous pouvez donner votre cul pour vous faire enculer à sec et sans broncher. Nous préférons demander notre fric avant et ne pas négocier nos tarifs. Ceci est notre choix, nous ne faisons pas un métier facile. Non, nous n'avons pas le sentiment de gagner notre argent facilement, mais cela nous semble être tout aussi acceptable qu'un autre boulot pour lequel vous aurez fait des études. Les études, parlons-en. Vous nous examinez comme des souris de laboratoire, souvent même en parlant à notre place, pensant que votre parole aura plus de valeur, de crédibilité que la nôtre. Mais ça va, sachez que nous savons ouvrir notre gueule, que nous pouvons être polis et qu'on sait l'ouvrir sans avoir la bouche pleine. La bouche pleine, pourtant nous avons tant de choses à vous cracher au visage, toute cette hypocrisie face aux putes est à gerber. Je parle de celle, par exemple, de nous demander de payer des impôts alors que vous ne nous reconnaissez pas dans notre société. Vous cherchez à nous abolir, vous nous, pay, vous nous pénalisez, nous. Non, nous nierons pas les personnes exerçant cette activité sous la contrainte, mais nous ne sommes pas non plus une minorité. Nous sommes des personnes ayant choisi la prostitution comme travail. Nous n'avons pas besoin de MAC pour nous gérer ou pour notre sécurité. Nos seuls et uniques MAC, c'est l'État qui ne nous reconnaît même pas. Notre sécurité est au point zéro parce que la parole d'une pute qui vient porter plainte pour viol n'est pas reconnue, parce que nous sommes là parmi vous et que nous n'existons que via vos clichés. Nous n'avons pas besoin que vous répondiez à notre place à savoir si nous allons bien, comme nous n'avons pas non plus besoin que vous trouviez un plan pour nous sortir de ce que vous pensez être une torture pour nous. Oui, nous allons bien, mais nous irions mieux si vous trouviez un plan pour aider ces personnes qui travaillent sous l'emprise de réseau et si vous nous reconnaissiez des droits similaires aux autres travailleurs, pour tous les travailleurs sexuels. Pour autant, nous ne souhaitons pas la réouverture de maisons closes qui seraient de véritables prisons. Et oui, ça ne s'appelle pas maisons closes pour rien. Nous n'avons pas besoin d'être encore plus enfermés que ce que nous sommes déjà. Par votre faute, nous n'avons pas le sentiment de répondre à des besoins sexuels d'hommes tordus, mais plutôt de répondre à des hommes qu'on a voulu castrer sexuellement. Non, la sexualité n'est pas que reproductive, elle peut aussi être un jeu entre adultes consentants, c'est-à-dire c'est à cela parfois que nous répondons. Nous ne sommes pas non plus le punching ball d'hommes violents, la violence c'est vous qui l'avez créée en montrant combien il était dégueulasse de venir nous voir. À cause de cela, même des personnes n'ayant rien à voir dans le travail du sexe se font insulter de sales putes. Non, une pute n'est pas sale. Nous faisons partie de cette catégorie de putes qui ne se sentent ni souillées ni humiliées. Ce qui est sale, c'est de mettre une personne plus bactère parce qu'elle choisit un métier qui ne répond pas selon vous aux valeurs de la dignité humaine. Notre dignité, nous ne la plaçons ni dans nos culs ni dans nos chattes. Nos sexes sont nos outils de travail. Pour autant, ils nous servent aussi dans nos vies privées. Comme tout être humain, nous avons le droit à une vie privée, à avoir un compagnon, une compagne, des enfants, sans qu'ils soient perçus et montrés comme nos proxénètes. Nous ne faisons pas l'apologie de la prostitution. Ce que nous défendons, c'est uniquement le droit d'exister, d'être reconnu dans une société qui, jusqu'à présent, nous a oubliés, exclus et, d'une manière plus extrême, tués.
Bravo.
Ouais. Suzanne, tu veux dire quelque chose ou...
Ah, moi, je pense que ça se passe de commentaires, en fait, parce que j'ai trouvé ça assez fort et puissant. Mm-hmm. Et j'ai pas forcément envie de décortiquer point par point. Enfin, je sais pas, toi, Zab, comme tu veux.
Moi, je trouvais ça vachement pertinent. Je trouve que, justement, ton texte fait preuve de vachement de visibilité en dénonçant, justement, l'hypocrisie qu'il y a généralement dans les discours publics sur la prostitution. Du coup, je trouve que c'est un discours assez performatif, finalement. Mm. Enfin, j'ai vachement adoré, en tout cas. J'ai trouvé ça bien. Et ça, représentatif de ta position. Et je pense pas mal de la nôtre aussi, ce soir, dans cette émission.
Ouais, tout à fait.
Bah, merci.
On est vraiment très contentes d'être avec toi, en tout cas. Et ben, en plus, on continue. En fait, on n'a pas tout à fait fini. Je sais pas, Sadie, si tu veux faire un commentaire par rapport à ce que tu viens de lire, ou est-ce que tu veux qu'on passe directement à la lecture du texte de Morgane Merteuil?
Non, bah, je voudrais juste rappeler donc aux assos à Bolo que justement toute l'énergie qu'ils déploient à abolir les putes en général, enfin toutes les putes en gros, parce qu'ils nous mettent toutes dans un même sac. Ils devraient plutôt la déployer justement à donner des droits pour que, par exemple, les travailleuses du sexe qu'ont pas de papier puissent avoir la possibilité de faire autre chose, parce qu'il est clair que, enfin voilà, c'est vraiment un des gros problèmes. Voilà. Et juste aussi rappeler que oui, donc une pute c'est pas sale, et que si, enfin là je parle surtout pour les clients, si vous demandez à une pute de vous sucer sans capote, prenez le risque aussi de contaminer votre copine ou votre femme. Donc, voilà, c'est important de rappeler qu'il faut toujours mettre une capote et que oui, il peut y avoir des risques par une pipe et que voilà, donc
ouais, ce que tu rappelles là en fait c'est tout enfin c'est aussi en gros les conditions du métier, ouais, c'est ça, et la responsabilisation de chacun des acteurs, que ce soit les clients ou les travailleuses et travailleurs, quoi.
Oui, non, parce
et qu'il y a des règles, voilà, enfin forcément, quoi.
Ça peut être un métier convenable du moment qu'il est exercé dans des bonnes conditions, avec des personnes qui ont envie de faire ça et voilà. Et aussi respecter quand une pute te dit non, voilà.
Ouais, ça c'est un peu une espèce de, je sais pas, on pourrait dire tout simplement un guide des pratiques
sexuelles rémunérées.
Je sais pas, sexuelles rémunérées. Bon, alors là, on va peut-être clore le petit chapitre sur le stress, même si en fait on y revient juste après avec donc Libérer le féminisme de Morgane Merteuil, qui est, comme l'a dit Sadi tout à l'heure, secrétaire générale du STRAS, et qui dont on va lire un extrait. Enfin, un extrait du dernier livre qu'elle a publié, pardon. Ça vient tout de suite après Pussy Killer de The Cash. Non, Cash, l'inverse. Pussy Killer.
Thank you.
Et voilà, donc on est de retour sur RCV avec Zab. Je suis avec Zab et avec Sadi. Et donc pour cette dernière partie d'émission, on a prévu de vous lire un extrait de Libérer le féminisme de Morgane Merteuil, publié chez l'éditeur en 2012. Et donc pour cette
en 2012.
Bah, c'était surtout publié chez l'éditeur.
Bon, pardon. Bon, petite parenthèse un petit peu hilar avant d'aborder la partie la plus excitante de l'émission, je pense, parce que c'est quand même un bouquin vraiment cool. Et du coup là, je vais vous lire le chapitre qui s'intitule « Pour un féminisme réaliste et inclusif ». Si les luttes féministes ont pour objectif l'émancipation des femmes, pour que leur appartenance au sexe féminin ne soit plus une entrave à leur liberté, mais que l'égalité entre hommes et femmes soit une réalité, alors elles doivent reposer sur deux principes, réalisme et inclusion. La lutte féministe doit être réaliste, c'est-à-dire comprendre la complexité des vécus des femmes, afin de ne pas énoncer de revendications qui peuvent leur nuire ou constituer une oppression. En conséquence, la lutte féministe doit être inclusive, c'est-à-dire prendre à son compte les revendications et les expériences de toutes les femmes, et notamment de celles appartenant à une minorité. Salope avortée, salope professionnelle, même combat pour un féminisme réaliste. On est évidemment en droit de penser qu'un monde idéal est un monde sans drogue, sans crime, sans prostitution. Mais cela ne dispense pas d'adopter la prudence de rigueur dans la façon d'appréhender cette déviance. Par exemple, même si les drogues dures sont illégales, les associations de prévention distribuent des seringues aux toxicomanes plutôt que de les regarder se repasser des maladies. Il suffit donc de faire l'effort d'observer une réalité complexe pour réaliser que condamner ne signifie pas éradiquer. Un monde sans prostitution n'est pour le moment en tout cas pas souhaitable, car celle-ci constitue un moyen de s'émanciper et d'échapper à d'autres oppressions pour de nombreuses femmes. Réclamer aujourd'hui sans nuance l'abolition de la prostitution est donc non seulement une revendication idéaliste, mais pire, dangereuse, dans la mesure où elle fait fi de toutes ces femmes dont la réalité serait pire sans la prostitution. Au lieu de tirer à boulet rouge sur les putes et leurs clients, les féministes devraient s'astreindre, faute de mieux, à un principe de précaution, à une logique de réduction des risques. Ainsi, lorsqu'elle réclame la pénalisation des clients qui aura des conséquences désastreuses, notamment en termes de santé et de sécurité sur la vie des putes, les féministes anti-prostitution sacrifient ainsi le réalisme au nom de leur idéalisme. Pourtant, il y a jurisprudence en la matière. Souvenez-vous du coup d'éclat de 1971. Elle fait référence là à manifeste des 343. 1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées. Partant de ce constat, les féministes d'alors réclamaient la nécessité de légaliser l'opération pour le contrôle des femmes sur leur propre corps, sur leur propre ventre, pour qu'il ne soit plus un acte par lequel elles risquaient leur vie. Ces revendications n'ont jamais fait concurrence à la promotion de la contraception. Au contraire même, les deux combats se sont mutuellement renforcés. De même, la légalisation de la prostitution mettrait les putes en sécurité, sans empêcher de lutter en parallèle pour qu'aucune femme ne soit réduite un jour à se prostituer si tel n'est pas son choix. Permettre aux putes de choisir leurs conditions de travail n'empêche pas de lutter contre celles et ceux qui voudraient les exploiter. Depuis quand l'émancipation d'une population passe-t-elle par sa négation ? Aussi insensé que cela puisse paraître, les féministes anti-prostitution reprennent donc aujourd'hui les mêmes arguments que ceux utilisés à l'époque par les anti-IVG, notamment celui de la pression sociale, qui empêcherait le choix libre et éclairé. Je cite « Dans d'autres conditions, tu aurais agi différemment » et celui de la blessure irréparable et traumatisante que constituent ces actes. Tu as perdu quelque chose de toi-même. Bon voilà, je m'interromps là parce qu'il y a tout un chapitre qui est consacré aux analogies entre discours et argumentaires qui ont été relayés à propos de l'IVG et ceux qui sont en cours concernant la prostitution et voilà finalement qui concernent à une espèce de répression qui pèse sur le contrôle que les femmes voudraient avoir de leur corps, prendre sur leur corps. Voilà, je sais pas si on termine là-dessus. Est-ce que l'une d'entre vous a des commentaires? On peut peut-être Je sais pas, qu'est-ce que vous avez pensé de ça, Sadie, Zab?
Moi, je trouve que c'est un extrait qui reprend des thématiques qu'on a abordées ce soir. La question du libre arbitre, la question de la fin des souffrances et des séquelles plutôt, qui sont que certaines prostituées vont avoir à vie et qui constituent un certain stéréotype qui est largement diffusé par certains médias et qui contribue à justement à participer à cette victimisation de la personne prostituée, que ce soit une femme ou un homme de manière générale. Et je me souviens plus, j'avais autre chose à dire, mais je me souviens plus ce que c'était.
Il y avait aussi l'idée de réalisme opposé à idéalisme, mm-hmm. C'est-à-dire que finalement, plutôt que de vouloir, finalement poser une utopie égalitaire dans laquelle le monde serait débarrassé de prostitution, autant déjà agir à partir des sujets qui constituent cette société, et notamment des travailleuses sexuelles, puisque une utopie sans oppression, on a un peu de mal à imaginer ce que ça serait. En tout cas, je sais pas si ça commencerait par la lutte contre la prostitution, ça concernerait tellement de champs que c'est juste inimaginable, quoi. Donc ça montre tout simplement qu'il y a encore une fois instrumentalisation et stigmatisation excessive d'un domaine qui ne devrait pas être autant stigmatisé, quoi.
Moi ce que j'ai trouvé bien justement dans ce chapitre, c'est que justement prendre en compte la parole de toutes les femmes, ce qui est quand même une chose importante. Le féminisme en général, c'est ça, quoi. C'est toutes les femmes, quel que soit leur choix, et voilà. Et donc le parallèle était assez intéressant avec les filles qui choisissaient justement de se faire avorter. Voilà. Donc je trouve que c'est un des chapitres, tout le bouquin est intéressant, mais ce chapitre-là en particulier, ouais.
En fait, je te suis complètement sur ce que tu dis. Ce que Morgan Merteuil écrit là-dedans, c'est d'une certaine manière, laissez-nous prendre le contrôle, quoi. Je veux dire, on nous empêche de prendre le contrôle de notre travail, de nos corps, pas des autres, mais le prendre, c'est vraiment se faire sujet de sa lutte.
Faire ses choix soi-même, quoi. Mm. Ne me libérez pas, je m'en charge, quoi. Enfin.
Oui, voilà, c'est ça. Bon, est-ce que Zabi, t'as un dernier mot là-dessus?
Moi, c'est pas exactement sur cet extrait. C'est juste, je suis en train d'y penser là maintenant tout de suite. Et juste en note de fin de l'émission, c'était une émission qui pour moi avait pour objectif d'essayer de visibiliser un peu cette pluralité de vécu et de prostitution différente, d'essayer de dépasser les stéréotypes et les lieux communs de la prostitution, c'est-à-dire l'univers sordide, les souffrances. Bon, on en a déjà parlé, on va pas revenir dessus. C'est en aucun cas pour moi une manière de dire telle association abolitionniste fait un travail que je considère pas pertinent dans le monde de la prostitution, mais que je trouve pas assez inclusif, et c'est justement ce que j'aimais bien dans cet extrait de Libérer le féminisme.
Ouais, voilà. Finalement l'idée de féminisme inclusif qui inclut le plus de sujets possibles et qui n'en exclut le moins possible, qui donne le plus de place aux paroles des femmes, aux positions différentes, et aussi diverses et plurielles qu'elles peuvent être, parce que on sait bien que les femmes sont vraiment, le féminisme a vraiment des sujets pluriels. Et voilà, donc finalement, comme tu dis, Zab, on reste sur cette idée d'un féminisme inclusif et...
Ou un féminisme où, justement, revenir sur le fait qu'il y ait plusieurs féminismes qui font écho à plusieurs réalités, peut-être, j'en sais rien, mais qu'il y a une pluralité de mouvements, de pensées, de vécu, et il faut toujours garder ça à l'esprit et pas vouloir trop généraliser certaines vérités et qu'on essaie de
et universaliser, voilà, trop vite, même si Bien sûr que l'idéal serait de trouver une politique, enfin un sujet universel, mais on sait bien que souvent le sujet universel, il est très souvent pas celui, il parle souvent à la place des autres, quoi. Mm-hmm. Ok, bon bah du coup, on va terminer sur une chanson de Prodigy, Smack My Bitch Up, pour terminer cette émission qui était donc consacrée, comme l'a dit Zab, à la prostitution. Et on se retrouve dans 15 jours pour une 6e émission de J'enrage. Une très bonne fin de soirée, très bonne nuit maintenant à tous.